Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Nous sommes très fiers et très honorés au Collège de France de recevoir Emmanuel Guibert pour la deuxième masterclass de cette série qui avait commencé en 2020 par une leçon inaugurale mémorable de Benoît Peters qui nous avait bien expliqué au fond combien la bande dessinée n'avait pas besoin d'être consacré. Vous l'êtes pourtant, cher Emmanuel Guibert. Vous êtes couvert de ces prix dont vous n'avez pas besoin. C'est ce que vous avez dit dans une tribune en 2016 dans Le Monde. Vous vous en souvenez, c'était le moment où le festival d'Angoulême avait une fois de plus omis de nommer quelques femmes parmi son palmarès. Et ça vous avait déplu. Et vous aviez déclaré « Pour rompre avec le double inconfort d'être et de n'être pas primé, j'engage quiconque serait tenté de me distinguer à ne le faire qu'à titre posthume. Là, de toute manière, je ne pourrais pas éviter d'être dans une urne. » Eh bien, c'est raté. C'est raté puisque en 2020, vous avez été grand prix d'Angoulême.
On ne m'a pas écouté.
Ils n'ont pas voulu. Voilà. C'était votre année ? 10 livres parus, vous avez bien choisi votre année, hein, 2020 d'ailleurs, et notamment.
J'ai toujours été un fin stratège.
Oui. Et notamment, eh bien, une exposition à l'Académie des Beaux-Arts, biographie dessinée, c'est de cela dont on aura à parler ensemble, hein, c'est-à-dire la manière qu'a le dessin de rendre compte et de rendre justice à des vies dessinées. Et. Voilà, c'est vrai que nous recevions au mois de mars, au mois d'octobre, Catherine Meurice, qui est académicienne, la première dessinatrice de bande dessinée à l'Académie des Beaux-Arts. Vous êtes le premier à être exposé à l'Académie des Beaux-Arts, donc on n'avait pas besoin du Collège de France pour consacrer le 7e art, c'est fait, en fait. Vous êtes de cette génération qui a d'une certaine manière, reçu ça, ou il a fallu encore le construire ?
Non, j'ai vraiment l'impression qu'on a tiré les marrons du feu pour nous et qu'on n'a plus qu'à se baisser. C'est vrai que c'est un moment particulièrement favorable pour faire de la bande dessinée dans l'histoire de ce médium. Cela dit, bon, pour dire les choses très simplement en ce qui me concerne, ces expositions étaient attachées au fait de recevoir des prix, en effet. J'avais pas eu ni le souci, ni même franchement l'envie d'exposer jusqu'ici, parce que je fais des livres, et que pour moi, le livre est le plus merveilleux et maniable module d'exposition qui soit. Et il va se glisser sur toutes les étagères dans le monde entier. Et,
traduit dans des dizaines de langues.
Il est traduit abondamment, c'est formidable. Et c'est un tel bonheur que je dois dire que rien ne peut rivaliser avec lui, si ce n'est que, comme souvent, quand on n'a pas encore pratiqué quelque chose, on n'en connaît pas les délices, ni d'ailleurs les inconvénients. Et ça m'a beaucoup intéressé d'exposer, je dois dire. En plus, bon, j'ai eu la chance que ce lieu est extraordinaire, là, ces salles comtesse de Caen de l'Institut sur les quais. Et. Il est vaste, mais pas trop. Il est fichu de telle manière qu'on peut le découper adroitement. Et voilà, je dois dire que c'est ça surtout qui m'a intéressé. C'était investir un lieu et se dire, je continue à faire des livres, en fait.
C'est ça.
Je suis dans un endroit où je peux raconter, mais en tenant compte d'un déplacement, de sources de lumière, d'effets de surprise qui tiennent plus au fait qu'on tourne une page, mais qu'on tourne un coin et que tout d'un coup on découvre quelque chose. C'est en fait tout aussi intéressant que de faire des livres. Donc j'ai écrit deux expositions coup sur coup, je dois dire avec beaucoup d'intérêt. Dans la première, j'ai donc essayé de mettre en valeur mes deux camarades, Didier Lefebvre et Alan Ingram Cope.
On en parlera.
Auxquels j'ai consacré des livres. Et puis, dans l'autre, qui avait lieu au Musée des Beaux-Arts d'Angoulême, qui a duré 6 mois, mais qui est resté au frigo pendant 5 à cause des faits que vous savez, et qui néanmoins, et ça a été une grande chance, a été vu tout de même pendant un mois. Là, j'avais invité 20 éminents camarades à exposer avec moi dans toutes sortes de disciplines qui allaient de la sculpture à la gravure, à la peinture, à la littérature, à la musique, en passant par la photographie. Et ça a été une autre façon d'écrire et que d'accueillir tous ces gens. Avec la candeur qui me caractérise, j'avais appelé cette exposition « En bonne compagnie », ne sachant pas qu'elle serait fermée au public pendant 5 mois. Mais le fait est qu'avoir assemblé ses amis, même dans le noir, pendant 5 mois, faisait qu'on se tenait chaud les uns et les autres dans ces moments de grande incertitude qu'on a tous traversés récemment, en ne sachant pas, quand on se lançait dans ce genre d'initiative, si tout le travail qu'on accumulait serait tout simplement vu.
Alors pour commencer, ce parcours qui, vous l'avez dit, est un parcours avec vos livres très nombreux. Vous avez, vous avez beaucoup publié de manière très, très diverse, mais aussi parce que vous travaillez beaucoup, ce qui dit quelque chose aussi de la bande dessinée comme industrie, et pas seulement comme art. C'est-à-dire que pour en vivre, il faut quand même énormément... travailler, et comme ici au Collège de France on enseigne la recherche en train de se faire, ben c'est une masterclass, hein, donc, c'est-à-dire la création en tant que se faire. Au fond, tout commence par l'enfance. Hein. Vous avez, l'humanité se divise en deux, entre ceux qui continuent à dessiner parce qu'ils dessinaient enfants, et ceux qui cessent. Ben vous continuez. Vous n'avez jamais cessé dessiner, et moi j'ai arrêté. Bon, alors donc comment on fait ? Ben, on va commencer comme ça, c'est-à-dire que je suis parti de votre seul livre sans image, sans aucune image, même sur la couverture. C'est un récit, mais c'est déjà une amitié dessinée, le promet, comme son bandeau le promet, et ça nous ouvre tout de suite. Dans votre œuvre, qui est une œuvre de fraternité. Mike était votre ami, il est en train de mourir de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un architecte, donc il dessine comme vous. Vous allez le voir et vous allez dessiner côte à côte pendant ces derniers jours, ces dernières heures, en vérité. C'est une magnifique leçon de fraternité. Et vous dites ce que c'est que dessiner. Dessiner, ce n'est pas faire un dessin. C'est s'approcher, c'est caresser, c'est retenir le temps, et c'est surtout écouter.
Oui, ça semble une sorte de paradoxe, mais c'est vrai que la plupart des modes d'expression artistique convoquent en fait tous les sens qui n'ont pas l'impression, dont on a l'impression qu'ils ne sont pas voués à les convoquer. Je ne sais pas si vous disiez que vous dessiniez enfant. Il vous est peut-être arrivé de dessiner en cours pendant ne serait-ce que des igouigouis comme ça dans la marge pendant qu'un professeur parlait.
Jamais. Quand un professeur parle, je l'écoute.
Très bien, ouais. Bravo. Ouais. Eh bien, moi, je l'écoutais d'autant plus que je dessinais des igouigouis dans la marge. Et je trouvais une injustice de toute éternité qu'on nous empêche de dessiner pendant les cours parce que, contrairement à ce que pouvaient penser nos enseignants, moi, j'écoutais d'autant mieux que j'étais en train de dessiner. Pourquoi ? Parce que je pense que tous les modes d'expression artistique sont là pour nous placer dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de jouer une sonate ou d'esquisser un pas de danse ou d'écrire un texte sans être là. On ne peut pas s'absenter au moment où on fait ça. Ou alors, si on s'absente, on cesse de le faire pendant une minute et puis on revient. Mais je pense qu'une des principales vertus vraiment des modes d'expression artistique, c'est celle d'exiger de nous la présence à l'instant qu'on vit. Et donc d'exiger ce qui va avec, c'est-à-dire l'attention, la concentration. Moi, quand je réouvre mes carnets de croquis, alors je ne sais pas si on voit...
Non, on ne voit rien là.
Ah, c'est ça. Voilà.
C'est ça. Alors, le principe.
On voit rien. Alors moi, je vois une image que vous ne voyez pas.
Ah, c'est celle d'après.
Qui est extraite de mes carnets de croquis qui représente un... On peut la montrer. Ouais, qui représente un pin parasol à Rome du côté du Circo Massimo. Et je dois dire qu'en regardant ce dessin que j'ai fait il y a une vingtaine d'années lors d'un de mes premiers séjours assidus à Rome, puisque c'est une période où j'y allais souvent. J'ai fait ce croquis et, très franchement, on n'est pas là pour ça, mais je pourrais consacrer 5 minutes à vous décrire le temps qu'il faisait ce jour-là, les joggeurs que j'ai vus passer sur ce cirque Maxime que, dans ma grande innocence, je pensais trouver sur pied en sortant du métro qui porte ce nom. Et le fait est que du cirque Maxime, il ne reste plus qu'une trace au sol qu'empruntent les joggeurs pour y faire leur petit tour du soir. Et donc tout ça pour dire que derrière ce pain, en fait, il y a pour moi cet instant vécu.
Et un temps qui s'est arrêté et le temps pour vous de vous en souvenir.
Il s'est arrêté parce que je l'ai dessiné, parce que j'étais particulièrement attentif ce jour-là au pain parasol, mais encore une fois, étant attentif au pain parasol, tout le reste est entré par la même porte et est resté là. Et je dois dire que c'est une des raisons pour lesquelles, vraisemblablement, je n'ai pas cessé de dessiner depuis que j'étais petit garçon. C'est que cette magie, je l'avais constatée enfant. Je m'étais rendu compte des bienfaits que m'apportait le dessin parce que, avec ce que j'étais en train de représenter, il y avait toute une ambiance du temps présent qui s'inscrivait en moi, qui venait nourrir ma mémoire. Et c'est un phénomène, en fait, éminemment physique. Décrit comme ça, ça a l'air d'une sorte de processus intellectuel. Le fait est que c'est avant tout quelque chose de l'ordre de la nourriture, donc quelque chose qui fait du bien physiquement. Et quand on connaît les adresses du bien-être enfant, on n'a pas envie d'en jeter les clés et de s'en séparer en avançant en âge, raison pour laquelle j'ai continué à dessiner jusqu'à aujourd'hui.
Et ce qu'on est en train de voir, au contraire de Mike, qui est un livre sans images, c'est un livre où il n'y a que des images. Ça s'appelle Italia. Vous m'en aviez envoyé quelques fichiers, juste pour les voir comme ça, oui. Peut-être même pour se taire. Ça n'intime pas l'ordre de vous taire.
Ça fait jamais mal.
Mais il y a une grande variété, on le voit déjà, de touches, d'observations. Et ce qui me touche justement dans ce livre, parce qu'il a été publié sous le titre Italia, dans la collection, enfin, chez l'éditeur Air Libre, c'est que précisément il donne l'air libre au lecteur, sans aucun mot, pour imaginer son histoire et pour permettre à cette image de prendre le temps de venir jusqu'à nous. Celle-là, par exemple. Vous m'en avez envoyé 30, je viens d'en faire défiler 12.
On est à Mantoue, là. Et c'est toujours très frappant de voir les dessins en grand. Ça ne m'arrive pas tous les jours, évidemment. Surtout à cette taille. Mais en toute logique, un dessin qui a été à peu près bien fichu, il doit pouvoir tenir le coup à toutes les tailles. Oui. Et évidemment, s'il est grand, s'il est lumineux, il doit vous inviter à vous loger dans l'image. Et puis, moi, je n'ai pas pratiqué la fresque, qui est un sujet qui vous intéresse, mais le fait est que quand je vois des dessins à cette taille, je me rends compte que j'en aurais bien envie. Et alors, là, par exemple, je suis dans une ville que j'aime beaucoup. Je suis allé 2 ou 3 fois à Mantoue. À chaque fois, c'est des séjours absolument inoubliables parce qu'elle tape vraiment, vraiment dans l'œil. Elle est magnifique. Il y a ce palais Gonzague, ce petit cabinet d'Isabelle d'Est, là, superbe. Et donc, j'ai un certain nombre de techniques sur moi dans un sac à dos. Et en fonction du temps que je peux consacrer à un lieu, je dégaine. Alors, si c'est quelque chose qu'il faut attraper au vol, je dégaine quelque chose de très austère et de très maniable, un crayon. Et puis, j'essaie déjà de me dépatouiller avec ça. Si j'ai pris un peu de retard sur les autres, qu'on m'a oublié, que j'ai le temps de m'asseoir sur une borne, à ce moment-là, je me défais de mon sac à dos, je l'ouvre et je prends le temps de choisir. Donc je peux prendre une technique humide, comme c'est le cas ici, où c'est des encres que j'ai souvent préparées. Alors j'aime bien ça, j'aime bien peindre avec des outils qui ne sont pas censés être des outils de la peinture. Là, en l'occurrence, ce sont des pipettes nasales qu'on utilise pour se mettre des solutions d'eau de mer dans le nez quand on est en rhumé.
Il y en a sur le PowerPoint. Vous les verrez après.
D'accord. Ouais. Donc, j'ai fait des petites préparations auparavant. J'ai fait mon petit chimiste. J'ai mis, en effet, un rouge dans l'une, un jaune dans l'autre, un bleu, etc. Peu importe si ça ne sont pas, évidemment, les couleurs exactes qui sont sous mes yeux, ça m'en laissera une trace. Il ne m'est pas interdit de les mélanger pour obtenir certaines nuances. Et à ce moment-là, je me lance et je me dis, eh bien, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement de découper ce moment à même la réalité pour pouvoir l'embarquer chez moi et pour qu'il reste définitivement consultable et porteur, comme je le disais tout à l'heure, d'autre chose que ce que j'y ai mis, c'est-à-dire d'une ambiance sonore, d'une hygrométrie, d'une lumière, qui ne sont pas nécessairement visibles dans le dessin, mais que moi, au moment où je les ai faits, j'ai absorbé.
Qui donne ce livre, Italia.
Voilà.
Dont, effectivement, vous dites que l'éditeur a beaucoup insisté pour que vous y mettiez malgré tout une quatrième de couverture, qui est économe, comme vous le voyez. Et donc, voilà, qui nous invite au silence. Je voudrais parler d'une autre qualité de silence. Vous en avez déjà, vous l'avez déjà annoncé. C'est justement celle que le musée d'Angoulême vous avait demandé d'imaginer autour de ce thème, en bonne compagnie. Et vous vous souvenez, on vous avait demandé deux dessins qui illustrait une lecture d'enfance.
Oui, deux autoportraits de moi enfant ouais. En train de lire. Ouais.
Lequel vous préférez ? J'ai les deux, en grand.
On peut prendre celui de gauche.
Pas celui-là.
Pas celui-là.
Mais celui-là.
Celui-là, oui. Il y aura un tout petit peu plus à dire, parce qu'évidemment, il y a un décor, contrairement à l'autre. Ce que j'avais voulu exprimer dans l'autre, c'était l'espèce d'isolement dans lequel la lecture peut nous plonger, c'est-à-dire cette magie qu'il y a tout d'un coup à abolir complètement le monde alentour, se réveiller trois quarts d'heure après avec des fourmis dans les jambes, mais en ayant exploré des contrées lointaines. En l'occurrence, j'étais en train de lire un album de Tintin. Et là, je suis à Cognac, au 25 rue Robert Doga, dans le quartier du Breuil, et je suis en train, sur mon transat, de lire, il doit être 6 heures du soir... Ma grand-mère
les
doit être en train
s'allongent.
De les ombres s'allongent. Ma grand-mère est en train de préparer la tarte aux abricots dans une cuisine qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit à travers la porte noire qui est en haut de l'escalier, c'est la lumière de l'imposte qui donne sur la rue de l'autre côté, parce que là on est côté jardin.
Je vous arrête. Cette maison, vous l'avez sous les yeux ou vous la reconstituez par le souvenir ?
Alors, quand je la dessine là, je la reconstitue à partir de croquis que j'ai fait de cette maison. De tout temps, puisque j'ai commencé à la dessiner, c'est une maison à laquelle j'ai accédé quand j'étais tout petit enfant. À l'époque, je ne faisais pas de dessin d'observation, mais je me suis mis à faire du dessin d'observation vers l'âge de 12, 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai des premiers croquis de cette maison à cet âge-là, et puis j'en ai fait d'autant plus abondamment que le temps a passé, et j'en ai fait presque fiévreusement quand il a été évident que ma grand-mère n'y vivrait plus, que cette maison serait vendue, parce que c'était le théâtre, évidemment, de ces heures-là, et qu'elles avaient suffi, bien sûr, à me la rendre éminemment chère. Donc, je voulais me constituer un répertoire des pièces qu'il a, des pièces, des meubles, des ambiances lumineuses du matin, du soir, etc. Encore une fois, toujours dans la même idée, c'est sauver, consigner, arrêter l'instant, le rapporter chez soi, le mettre au chaud, le mettre à l'abri, en parler, se retrouver dans un cénacle comme celui-ci et vous dire cette adresse dont vous n'avez vraisemblablement pas grand-chose à faire, mais qui est chère à mon cœur. Et dans la chaleur que j'ai à vous la dire, peut-être que passe un peu des adresses de vos grand-mères à vous et du bonheur que vous avez eu éventuellement, enfant, à bouquiner... sur un transat pendant qu'on s'occupait pour vous de la vie pratique.
Oui,
parce que vous n'aviez qu'une chose à faire, c'était un peu pénible, certes, c'était de prendre votre douche avant d'aller manger, mais pour le reste, mettre les pieds sur la table et avoir quelqu'un d'adorable à votre disposition.
Parce que vous êtes fils unique.
Alors, je suis en plus fils unique.
Ça veut dire que vous êtes obligé de vous fabriquer des frères et sœurs, et c'est pour cela que le thème de la fraternité, de la bonne compagnie, est si important. Mais on reste sur l'enfance, si vous le voulez bien. On reste dans ce moment de l'enfance. Peut-être que c'est le petit Nicolas que vous lisez. Il paraît que le jour de la mort de René Goscinny, vous avez raté l'école. Vous aviez 14 ans.
Ouais.
Et puis on dit que Ariol, c'est le petit Nicolas de notre temps. Mais il y a une différence majeure quand même avec le petit Nicolas. C'est qu'évidemment, Goscinny, Sempé, c'est un couple célèbre, alors que vous n'avez cessé d'échanger les rôles entre scénariste et dessinateur. Si on prend... Ariol, c'est Marc Boutavant qui dessine les aventures d'Ariol, donc on en est au 16e volume. Quant aux Sardines de l'espace, eh bien, on en est au 14e album. C'est Mathieu Sapin qui en est le dessinateur depuis 2009, mais les premiers albums étaient dessinés par Johann Sfar.
Oui.
Puis à un moment, vous avez fait le dessin et le scénario. Oui. Et puis La fille du professeur, c'est l'inverse. Exactement l'inverse, puisque c'est vous le dessinateur et c'est Sfar le scénariste. Donc c'est assez rare quand même d'échanger comme ça ces rôles. Pourquoi ?
Je crois que ça, c'est assez typique de ce qui se passe quand on travaille en atelier. Et moi, j'ai eu ce bonheur relativement tardif, j'avais une petite trentaine d'années, d'entrer dans un atelier où on était une dizaine de confrères et consoeurs à travailler côte à côte. Et très naturellement, les planches passaient d'une table à l'autre. Et,
ça a donné l'association, c'est-à-dire l'éditeur que vous vous êtes inventé d'une certaine manière.
Voilà, l'association préexistait un peu à cette expérience, mais le fait est que, en effet, tout ça s'est développé dans les mêmes années. Et donc, étant côte à côte et ayant tous ce désir d'écrire, de dessiner et de nous mélanger, il était très évident qu'il fallait qu'on se propose des jeux, parce que tout ça c'est des jeux, qu'on se provoque régulièrement les uns les autres. On parle de La fille du professeur, je vous disais tout à l'heure en aparté que Johan un jour a déposé sur ma table qui était à côté de la sienne une page de scénario, c'était la première page. Donc.
La voilà, la première page.
La voilà. Et il m'a dit, sur un ton un peu combinatoire, si tu veux la suite, il faut que tu la dessines dans la journée. Donc, en bon feuilletoniste, il ne savait pas où il allait, il n'avait pas écrit la seconde page, mais je me suis empressé, évidemment, d'obéir et de dessiner cette page dans la journée pour savoir ce qui allait arriver à ces deux personnages. Et voilà, c'est ça que j'appelle le jeu.
Les deux personnages, c'est Liliane, qui est la fille d'un égyptologue anglais, et une momie, et qui revient en 1900. C'est ça ?
La momie d'un dénommé Imhotep, oui.
Imhotep.
Voilà.
Et on commence, alors c'est la première case, hein, c'est extraordinaire comme récit, c'est-à-dire qu'on commence vraiment, c'est une médias res.
Hein. À de but en plan. Hein.
Ah oui.
Et tout de suite, il faut qu'ils sortent là tous les deux, elle a envie de lui faire prendre l'air, parce qu'il y a un certain nombre de siècles, ça ne lui est pas arrivé. Il craint la lumière, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il met tout de suite son 8 reflets sur la tête. Et on est dans le bonheur d'une sorte de feuilleton à l'ancienne. Encore une fois, dessiner pour avoir la suite, hein, ça a un côté chez Sheherazade, comme ça. On se dit, je suis à côté de quelqu'un d'extrêmement talentueux, de drôle, qui va nécessairement m'emmener dans des endroits dont je n'ai pas idée, mais qui seront fructueux et intéressants. Et donc, on est dans des circonstances très, très favorables pour développer une histoire, parce que pour l'instant, au moment où on dessine cette première case, on est loin de toute préoccupation éditoriale, on est uniquement le plus proche possible de la source des récits. Et on se rend compte d'ailleurs que chaque fois qu'il nous arrive de nous éloigner de cette source, ben, c'est pas bon. Les récits, tout de suite, s'empèsent. On est au risque de perdre le contact avec ce qu'on est en train de raconter. Et ça peut nous arriver justement parce qu'en plein milieu d'une histoire, des préoccupations qui tiennent à notre lectorat, à nos éditeurs, à la diffusion, etc., viennent nous distraire de quelque chose qui émet un chant subtil et pour lequel il faut tendre l'oreille, qui est vraiment ce que j'appelle la source des récits,
oui.
C'est-à-dire de là où ils viennent.
Et ce qui est extraordinaire dans ce très bel album, c'est qu'il a quand même, vous dites qu'il a été feuilletonné, mais en fait, il a une très grande unité chromatique, parce que toutes les cases sont teintées de sépia, narrative, parce que c'est systématiquement six cases, alors qu'évidemment, dans la suite de votre travail, il y a une grande variété de procédés narratifs quant au découpage de la bande dessinée. Ça, c'est Alain et Martin, c'est une planche magnifique. Donc, si vous voulez bien, on essaie. Et puis là, on va en reparler, c'est juste un teasing de ce qui suit dans la deuxième demi-heure, c'est le photographe, avec évidemment cette forme hybride entre le dessin et la photographie. Donc, si vous voulez, rentrons un petit peu dans votre atelier. Mmh. Là, c'est votre... si on peut toujours dater une photographie par le téléphone portable. Donc là, on est à la fin des années 90. Et puis, on est sur la guerre d'Alan. Au fond, vous êtes un... Quand on voit vos pages crayonnées, vous êtes... Voilà, un bédéiste classique de formation, mais vous ne détestez pas, effectivement, voilà les pipettes nasales, vous ne détestez pas innover dans les supports, dans les matériaux, ce qui donne des résultats assez stupéfiants du point de vue graphique, par exemple celui-ci.
Oui, alors ça, on est à Berlin, là, c'est la Ziegesäule. C'est un dessin qui est peut-être bien paru en effet dans ce catalogue qui s'appelle oui. En bonne compagnie, mais qui pour l'instant qui s'inscrira plus tard dans un livre que j'espère consacrer à la ville de Berlin. Et là, ce qui m'a amusé, c'est que j'avais acheté, là encore c'est des jeux, j'aime bien quand je débarque dans une ville que je connais ou pas aller dans les marchés aux puces et dégoter des supports qui ont déjà eu une vie. Des cahiers d'écoliers des années 30. Là, en l'occurrence, c'était des albums de photos de la partie est de la ville qui sont vendus au marché Opus pour quelques sous. Donc j'ai acheté deux albums de photos qui visiblement appartenaient à la même personne. Quelques reliquats de photos restaient à l'intérieur de l'album, mais la plupart avaient été arrachés et il y avait encore les légendes en dessous que j'ai intégrées à mes dessins. Et là, donc, j'ai pris ces deux albums que j'ai superposés et j'ai fait un seul et même croquis, mais scindé. Le haut de cette statue, qui est pour nous de sinistre mémoire, puisque cette statue, elle est là pour célébrer la victoire de Sedan, donc c'est une déculottée française, de plus, si j'ose dire. Et le fait est que j'ai dessiné donc la partie haute dans le premier album et la partie basse dans le second, en n'ayant pas peur, comme on le voit, de balancer de l'eau dessus, parce que l'idée, c'est aussi de profaner ces supports-là.
Voilà.
Dans la mesure où, quand on fait de la bande dessinée, on est souvent contraint, pour toutes sortes de bonnes raisons, hein, à une discipline très stricte. Faut pas déborder, si j'ose dire, comme disent les enfants. Il faut être rigoureux. On est lancé dans des narrations que vous lirez en une demi-heure ou trois quarts d'heure, mais qui vont peut-être pour nous requérir trois ou quatre ans de travail. Donc, il faut de la concentration, il faut de l'exactitude. Et quand on sort de là, on a besoin de se dégourdir les jambes et on a besoin de temps en temps de percer le papier, de le traiter avec moins de respect qu'on ne le fait d'ordinaire quand on fait des récits. Donc, souvent, ces croquis-là Non seulement je suis en plein air, dans des circonstances assez acrobatiques, parfois il y a du vent, il pleut, etc. Mais par goût, je n'ai pas peur non plus de passer dessus un tuyau d'arrosage ou de le placer sous la roue d'une voiture pour voir comment un dessin va réagir. Parce qu'on a besoin, je pense, tout autant qu'on est, à côté d'activités rigoureuses, d'avoir des espaces qu'on peut appeler des sortes de laboratoires, qui sont des endroits où on se constitue un pré-carré à l'intérieur duquel on peut vraiment agir comme on le souhaite, en laissant libre cours à toutes les inspirations, à tous les grains de folie, pour voir ce que ça donne. Et évidemment, ça suscite du déchet, c'est fait pour, mais de temps en temps, il y a un moment de grâce, il y a quelque chose qui nous laisse à penser que si on le réutilise, si on le rationalise, on arrivera peut-être à en faire quelque chose pour nos récits. Et le laboratoire en question, à ce moment-là, a d'autant plus de validité qu'il sert de prémisse, en quelque sorte, à notre activité d'auteur de bande dessinée, d'écrivain, etc.
Et ce qui est formidable, Emmanuel Guibert, c'est qu'en fait, ce parcours de liberté que vous esquissez et qui fait tellement envie, ben, il commence par un faux départ, c'est comme ça que vous le dites vous-même. Brune, 1992, votre premier album qui vous demande un effort énorme, 6 ans de travail que voilà, vous aimez moins aujourd'hui. Dans un entretien que vous avez accordé à Gilles Clé-Simon, vous dites ceci: dans Brune, tout, les anatomies, les perspectives cherchent à affleurer à la surface, à prendre sa place. Il est clair que je ne me sens à l'aise avec rien de tout cela. Je me sens incapable de m'en sortir tout en ayant une fringale de le faire. Donc, j'essaye de tout border au détriment de ce que je raconte. Et évidemment, quand on compare cette planche avec celle que je présentais avant, où là, à l'inverse, ce qui est magnifique, c'est de voir que le petit... l'enfant... qui est tiré par la main, enfin, c'est comme dans cette belle page de Roland Barthes, voilà, l'enfant est toujours en retard parce qu'il est tiré par sa mère, en l'occurrence, son père. Là, on voit que voilà, vous avez tiré les leçons de cette insatisfaction de Brune.
Oui, ben c'est très très bien de se gourer quand on démarre.
Non, mais c'est rassurant pour nous, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tout réussir d'un coup tout de suite.
Ah ben Dieu sait. Enfin, il y a évidemment des gens qui y arrivent, et je pense que c'est ces gens-là qu'on appelle les génies, qui ont une précocité extraordinaire et qui mettent dans le mille dès leurs premiers essais. Moi, c'était à aucun point de vue mon cas. J'avais juste une fringale absolument phénoménale. Puis je pense que j'ai démarré ce livre, j'avais 20 ans, quoi. Et c'est un âge où on veut se connaître, on veut tester ses limites, on veut savoir jusqu'où on peut aller. Moi, j'avais une envie folle, une fringale folle de travailler, d'essayer de me prouver ce dont j'étais capable. Alors, toutes ces fringales, ça ne peut donner qu'une chose, en effet. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça a donné en ce qui me concerne. C'était quelque chose d'hypertrophié, de déséquilibré. Mais je suis bien content de l'avoir fait. J'aime pas ce livre, mais j'aime bien être passé par là.
Mais oui, mais justement, c'est important de l'avoir fait. Moi, j'aime bien ce livre. Ouais. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça parle d'histoire.
Ah, ça parle d'histoire.
Ça parle d'histoire. Et au fond, vous allez, d'une certaine manière... vous quitterez cette manière, mais l'histoire, vous ne la quitterez jamais. Jamais. Et notamment la guerre. Vous allez, à partir de Brune, raconter autrement des récits de guerre. Et ce que vous faites à partir de la guerre d'Alan, justement, donc à partir de cette rencontre 94, hein, c'est ça, d'après les souvenirs d'Alan Nguyen Cop, comme le dit la couverture, c'est au sens propre d'imaginer les souvenirs d'un autre. Et oui. Ça, d'une certaine manière, c'est la règle du jeu. Ça va être votre manière. Quelqu'un vous avez un coup de foudre amical, vous le rencontrez, il vous parle, en l'occurrence là pendant 5 ans, et vous allez dessiner ses souvenirs.
Oui. Une dernière chose concernant Brune, c'est que pour les besoins de ce livre, donc en 1985, j'ai fait un voyage à Berlin et on est donc 4 ans avant la chute du mur. Autant dire qu'à l'époque, on n'a aucune espèce de perspective que cette situation changera un jour. C'est, je pense, quand on fait de l'histoire, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que quand un événement s'est passé, on n'est plus les mêmes après qu'avant. Et avant, on était face à une ossification telle, enfin, qui était matérialisée par ces infrastructures invraisemblables qui coupaient cette ville en deux, enfin, qui plus exactement en entouraient intégralement toute une partie. Il n'y avait aucune espèce de perspective que ça change un jour. C'était parti pour les siècles des siècles. Moi, je suis né en 1964, le mur existait déjà. Mon père, qui était allé à Berlin quelques années auparavant, en avait vu les prémices de la construction. Et donc, j'avais toujours vécu dans cette Europe coupée en deux par ce qu'on appelait parce que Churchill avait appelé le rideau de fer. Et quand il m'arrive aujourd'hui de me rendre dans les pays d'Europe centrale pour discuter avec des jeunes gens qui souvent n'ont pas la mémoire de ces faits, enfin, ils n'en ont évidemment pas la mémoire parce qu'ils ne les ont pas vécus, mais il faut dire qu'à fortiori, on ne les leur a pas racontés la plupart du temps. Donc tout ça donne l'impression pour eux d'être à des années-lumière de nous. Et alors que moi, pendant 25 ans, les 25 premières années de ma vie, ça a été mon paysage et ça a été ma perspective. Je me suis dit, je vivrai toujours, par exemple, sans jamais rencontrer ces gens-là. Donc ça a été des changements absolument majeurs. Et ce livre m'a aussi servi à ça. C'est-à-dire que aller sur place à 21 ans, être déniaisé tout d'un coup par cette capitale de la connerie, parce que c'était quand même extraordinaire de voir une ville soumise à un régime pareil. Et puis pour y accéder, voir des camps militaires tout le long du trajet en train, je me souviens avec tous les chars du parc de Varsovie qui étaient tournés vers nous, ça m'avait évidemment considérablement dessillé. Et je parlais tout à l'heure, on a vu la Ziegesäule, je parlais éventuellement d'un livre sur Berlin que je souhaiterais faire. Moi, comme je suis toujours assez lent à la détente, je pense que les impressions que m'a faites ce voyage quand j'avais 21 ans, c'est maintenant que je souhaiterais les raconter.
Oui, mais là, ce qui était urgent en 94, ouais. Quand vous faites la rencontre très importante,
alors, là,
c'est de raconter son histoire.
Ah oui. Alors, vous me ramenez opportunément à Alan. Donc, Alan, 94, je suis dans l'île de Ré et je rencontre un monsieur qui est en train de scier du bois devant la porte de sa cuisine et je lui demande mon chemin. Et on devient les meilleurs copains de la Terre et ça dure 5 ans. Au bout de 5 ans, il est atteint d'un cancer et il disparaît en me laissant ce patrimoine de conversation, d'échanges épistolaires, ces heures et ces heures d'enregistrement que, heureusement, j'ai faites de sa voix.
Ça, c'est les échanges épistolaires aussi. Oui.
Qui me permettent de continuer à lui consacrer des livres aujourd'hui. Et oui, je vis un moment pour moi extrêmement important, comme le sont toutes les amitiés majeures dans notre vie, vraiment, quand on croise des gens selon notre cœur, des gens qui nous plaisent, des gens avec lesquels il fait bon être. Et Alan, j'ai pas envie de le quitter, il a pas envie de me quitter non plus, donc on passe en effet beaucoup de temps ensemble. J'ai cette espèce d'attention qu'il attendait visiblement, mais qu'il n'avait sans doute jusque-là jamais eu à ce point. Et ce qui fait qu'il y a quelque chose de très opportun dans notre rencontre. Et très rapidement, tout de suite, de but en blanc, je lui propose qu'on fasse des livres. Comme si c'était la proposition au monde la plus évidente et la plus naturelle, il dit oui. On met sur pied un petit protocole très simple qui consiste à se retrouver le soir dans un petit chalet à 1 kilomètre de sa maison de ville pour enregistrer. Et puis voilà, je commence à faire mes planches. Il envoie un certain nombre, malheureusement pas suffisamment pour voir l'intégralité du premier livre. Il mourra avant. Et depuis, donc, tous les livres que j'ai consacrés à cet homme et que je continue de lui consacrer, puisque je vais me lancer là d'ici quelques temps dans le récit de son adolescence, ça a été fait en son absence. C'est pas la sensation que j'ai, parce qu'il est évident que ce travail, c'est aussi une façon de rester avec lui, une façon, je dois dire, assez efficace. Je je conseillerais assez volontiers à tout un chacun qui vit un deuil frappant de consacrer des centaines de pages de bande dessinée à la personne qui vient de disparaître, pour peu qu'on l'ait bien écouté de son vivant, parce que c'est une façon de continuer à lui consacrer du temps, de la sollicitude. C'est aussi la possibilité de continuer la circulation de cet homme à travers le vaste monde. Les gens qui vont lire ce livre et qui ne l'ont jamais connu, pour eux, il n'est pas mort, il va naître, au contraire. Donc ça va être à chaque fois des rencontres nouvelles. Et je dois dire que depuis donc 1999, date de sa mort, il m'a offert en fait une vie extrêmement romanesque et intéressante, parce que le nombre de voyages, de rencontres que j'ai faites grâce à lui et qui m'ont emmené assez loin sur cette planète, ça a été constamment enrichissant. D'ailleurs, quand j'allais le voir à l'hôpital à la fin de sa vie, il me disait « Je te remercie de ce que tu fais pour moi. Quand tu auras mon âge, je te rendrai l'appareil. » Et il le fait.
Ouais, il le fait en racontant son enfance, justement, toujours avec ce même principe. C'est-à-dire, ce que vous dessinez, ce n'est pas le souvenir, c'est son tremblement, c'est son imprécision.
Oui.
Ça commence comme ça, regardez, j'ai les trois premières pages. Hein. Alors, vous voudrez que je parle un peu de mon enfance en Californie du Sud.
Alors, il y a un contraste marrant, c'est que, en effet, il fait allusion à cette Californie d'avant-guerre et...
J'ai des souvenirs, hein, donc c'est des souvenirs vagues.
Ouais.
Et ensuite,
c'est pendant la guerre que tout a changé. Énormément de gens, soldats, travailleurs dans les usines et les arsenaux sont passés par la côte Pacifique. Un monde fou qui ne connaissait pas la Californie l'a traversé. Après la guerre qui, pour nous, a duré 4 ans, la population avait doublé. C'est beaucoup doublé. Oui, là, évidemment, il y a, dans quelques phrases, il y a pas mal d'informations, mine de rien. Et puis, pour pas que le dessin suive servilement ce qui est dit, j'ai montré la Californie d'aujourd'hui, qui est évidemment un milieu de ce qu'elle était avant-guerre, puisque avant que cette population ne double, c'était un pays passablement désertique, assez peu peuplé, somme toute, et une sorte de pays de cocagne que le changement climatique est en train de transformer petit à petit en un endroit beaucoup moins viable qu'il n'a été. Mais voilà, j'ai fait un voyage sur ces traces avec ma femme et ma fille. Et pendant que je conduisais notre voiture, j'avais demandé à ma femme de bien vouloir filmer notre trajet depuis l'aéroport de Los Angeles. Et c'est à partir de ces images que j'ai pu inventer cette entrée dans le livre avant qu'on ne pénètre dans le passé proprement dit. On quitte la couleur et on rentre dans un récit en noir et blanc.
C'est un album qui est magnifiquement inventif et qui repose sur la même, toujours au fond, comme Mike, mais celui-là n'est pas dessiné, et comme le photographe, évidemment, qui est peut-être, au fond, votre livre le plus célèbre, qui a quand même, on va dire, bouleversé les codes de la bande dessinée, ne serait-ce que par, on en a déjà vu un extrait, cette hybridation entre la photographie et le dessin, vous dessinez le photographe. Parce que vous avez voulu le suivre, parce qu'il vous épatait, c'est encore un récit de guerre, c'est sur l'Afghanistan.
Oui. Il m'épatait, oui. C'était un homme formidable, et c'était un voisin, un peu comme Alan, une espèce de rencontre de hasard, quoi. Et puis un jour, il m'a invité chez lui une après-midi. Je lui ai demandé j'avais 4 heures à lui consacrer, donc je lui ai demandé de bien vouloir me raconter une histoire. Et il est allé chercher des cartons qui contenaient les planches contact de ce voyage de 1986 en Afghanistan. Et à la fin de cet après-midi-là, là aussi, j'ai pas pu faire autrement que de lui proposer de faire un livre parce que j'avais vécu vraiment une après-midi passionnante. La mise à feu est toujours un peu la même, en fait. C'est un vis-à-vis, un face-à-face avec quelqu'un, et cette personne vous foudroie par un récit particulièrement passionnant. Et puis, non seulement il y a la qualité dramatique du récit, si j'ose dire, mais cette qualité vous est servie par une personne qui s'est trouvé les mots, qui s'est trouvé les cadences pour pour qu'on halète, pour qu'on soit vraiment dans le, qu'on ait envie d'en savoir plus. Non pas nécessairement que les choses soient toujours systématiquement spectaculaires. Les premiers récits qu'Alan m'a fait de sa guerre, par exemple, étaient des récits relativement atones, en fait. Il me racontait des moments assez creux, et ça n'empêchait pas que je sois suspendu à ses lèvres, parce que ben, c'est le principe des conteurs, en fait. C'était quand les gens savent partager leur expérience avec vous, ils vous placent dans leur peau, et pour peu qu'on soit dessinateur, on voit ce qu'ils racontent. Et à ce moment-là, on est pris d'une espèce de tachycardie, on a envie de se précipiter chez soi et de mettre noir sur blanc les images qui sont en train de se presser dans votre esprit à mesure que le récit est dévidé, parce qu'elles ont un relief, elles ont une sorte d'effet stéréoscopique qui fait qu'il n'y a plus qu'à, si j'ose dire. On rentre chez soi, on pose la feuille sur la table et de but en blanc, on n'a plus qu'à ouvrir les vannes et qu'à laisser le récit tel qu'on l'a vu une première fois au moment où la personne racontait se dérouler sur la feuille. Je dois préciser que ce livre, en l'occurrence, et d'autres qu'on a vus, ont été faits en cheville avec un copain formidable qui s'appelle Frédéric Lemercier, oui, qui est un graphiste et typographe savant aussi, et avec lequel je fais bon nombre de mes livres depuis des années. On les conçoit vraiment main dans la main. Et là, il y a eu un trio, donc Le Mercier, Lefebvre, Guibert, pour ce bouquin. Et je parlais de la mise à feu nécessaire à la bonne conduite de ces récits. En fait, quand on se lance en effet dans des travaux dont on ignore au début combien de temps ils vont nous prendre, mais dont il n'est pas rare qu'ils nous prennent 3, 4, 5 ans de notre vie, et puis 5 ans très assidus, où vraiment on bosse beaucoup, il est très important que la mise à feu soit forte. Pour que la fusée aille loin, on a besoin que ces primes instants qu'on vit avec eux et où tout d'un coup, ils nous intéressent sur un sujet qu'ils sont en train de nous raconter, soient des instants pour nous marquants, pour ne pas dire bouleversants. C'est des moments où on doit ressentir. Enfin, c'est comme ça que ça se passe, en tout cas pour moi. Au moment où je les écoute, je ressens une sympathie, une identité, un intérêt, une curiosité pour ce qu'ils sont en train de me dire, qui sont inextinguibles. Et j'ai envie, je me projette déjà dans la prochaine fois où on va continuer de parler de ça. Si je pense à Didier, par exemple, je pense aux innombrables fois où, Dieu merci, puisque malheureusement il est mort jeune, il sonnait à ma porte. Chez moi, on enlève les chaussures, donc il avait déjà ses chaussures à la main quand j'ouvrais la porte. Et on savait qu'on allait passer une heure et demie ensemble à parler du sujet qui nous intéressait. Et c'était du gâteau, parce que c'est vraiment le sel de la vie. C'est-à-dire, quelqu'un a vécu une expérience importante, intéressante. Il a la bonne grâce de bien vouloir la partager avec vous. On se met dans une pièce accueillante, à bonne température, on se serre un coup et on est là pour ça. Et c'est tellement important quand des récits valent la peine d'être dits, qu'on leur dédie le temps nécessaire, le temps qu'ils requièrent. Je pense que les récits, c'est du temps. C'est vraiment toutes les histoires que je raconte dans mes livres, elles sont nées d'une longue fréquentation. D'une complicité exercée vraiment en toute conscience avec cette espèce d'appétit, oui, d'envie d'être côte à côte.
Puis, d'être côte à côte sur une histoire qui est difficile, parce qu'il faut donc rappeler, on est en 1986, Afghanistan, c'est une mission de Médecins Sans Frontières. Chacun sait ce qu'il a à faire, bah, sauf le photographe, au fond, qui est un peu ici comme Fabrice à Waterloo, qui a toujours un temps de retard, au fond, et c'est ça qui le rend, qui rend cette histoire bouleversante. Elle est bouleversante de bout en bout, jusqu'à son issue tragique. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le courage aussi que vous parliez justement du graphisme, le courage, oui, du rapport entre le dessin et la photographie, parce que le dessin n'est pas là pour atténuer la photographie, n'est pas là pour l'euphémiser. Ici, il y a une planche où il y a une... il y a un bombardement, une petite fille est blessée la main. John va la soigner, d'abord la désinfecter. Et puis on va tourner la page en se disant, bon, ben, la suite va nous être épargnée par le dessin. Ben non. On est toujours dans la bande dessinée. La bande dessinée peut décidément aujourd'hui tout se permettre. Et en particulier, voilà, donner un discours puissant sur la guerre. C'est un récit de guerre puissant tout de même que le photographe. Et voilà, là, on parle d'un livre qui, comme vous le dites, est voilà, traduit dans des dizaines de langues. C'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc c'est un geste fort quand même.
Ça, ce sont les conséquences d'un acte qui a consisté en effet à faire à décider ensemble cet après-midi-là de faire ce livre. Après, on ne sait pas du tout où on va. Nous, il est clair que quand on a fait ce bouquin, on pensait intéresser grosso modo le public qui regarde entre 2 et 3 heures du matin sur Arte un documentaire sur un pays à coucher dehors où il se passe des choses qui n'intéressent pas la plupart des gens. Et puis, en effet, on a constaté, et on en a été les premiers surpris, qu'on arrivait à intéresser beaucoup de gens avec cette histoire. Un auteur quel qu'il soit, un historien, à partir du moment où il jette son dévolu sur un sujet, il est obligé d'avoir la folie de penser que ce qui l'intéresse va en intéresser d'autres. Mais s'il a les moyens de son travail, s'il peut, pendant un certain temps, parce qu'il est soutenu par un éditeur, ou parce que par ailleurs il gagne suffisamment sa vie pour pouvoir consacrer des mois ou des années à un livre qui peut-être rapportera pas un copec, il est obligé de penser que c'est intéressant de le faire, que ça vaut vraiment le coup. Et de temps en temps, notre curseur s'arrête sur des histoires dont on se dit « Ah, ben, ça vaut vraiment le coup ». On serait bien en peine au début, puisque au fond, quand on prend cette décision, on sait encore peu de choses sur l'objet sur lequel on va se pencher. Mais on a une intuition très très forte et on se lance et en effet on peut par hasard si j'ose dire, enfin par un heureux concours de circonstances, petit à petit entrer en contact avec beaucoup de lecteurs de beaucoup de pays différents parce qu'il se trouve que peut-être on a touché juste en donnant à un récit une forme, en trouvant la forme adéquate à un récit. On parlait de temps, c'est de l'espace aussi, c'est-à-dire il ne faut pas lésiner, si ça doit faire X centaines de pages, ça fera X centaines de pages. Il est clair que les récits à portée documentaire tels qu'on les voit racontés au cinéma ou à la télévision, d'abord sont réalisés avec un appareil qui est coûteux, et qui nécessitent des productions, des équipes, etc. Donc, on se retrouve avec un étiage de, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de minutes ou au mieux une heure et demie à consacrer à un sujet. Et on a tendance, dans l'heure et demie en question, à vouloir traiter ce sujet le plus complètement possible. Et donc, on en extrait toutes sortes de choses qui semblent des à côté, des détails qui n'ont pas une importance particulière. Or, l'étiage de la bande dessinée, le fait de pouvoir consacrer le nombre de pages qu'on veut à un récit, permet de ne pas faire l'économie de ces menus faits, de les intégrer au contraire au récit, parce que, c'est ce que j'ai constaté en écoutant Alan et c'est ce que j'ai constaté abondamment en écoutant Didier, toutes les anecdotes qui paraissent vraiment infinitésimales, qui paraissent de peu d'intérêt, qui paraissent même carrément exogènes par rapport au sujet qu'on est en train de traiter, sont en fait des portes d'entrée de grande valeur pour nous lecteurs qui n'avons peut-être pas l'expérience d'un voyage en Afghanistan en temps de guerre, mais qui savons ce que c'est que de randonner, savons ce que c'est que d'avoir des ampoules aux pieds, savons ce que c'est que d'échanger une blague au détour d'un chemin avec un copain. Et ces choses-là dont on aurait tendance à purger les documentaires traditionnels, dans le cadre d'une histoire dans laquelle on a vraiment liberté de long développement, on peut les réintégrer. Et je pense qu'elles ont toute leur place.
Oui, mais pour ça, il faut prendre son temps. Alors nous, on n'en a plus trop, donc il faut qu'on se quitte. Qu'on se quitte au musée, par exemple. Ouais. C'est un de vos derniers livres, dessiné dans les musées et autres lieux de culte. J'aime bien ce titre.
C'est la même chose, hein, d'une certaine manière, c'est soutenir le regard, c'est observer, c'est préserver. Il y a de très beaux dessins de Delacroix, justement, puisqu'on parlait avec Catherine Meurice la fois dernière de Delacroix. Je voudrais m'arrêter, ça sera l'avant-dernier dessin, sur celui-là, parce que d'une certaine manière, ça élargit le domaine de la fraternité. Jusque-là, vous avez effectivement dessiné pour des amis qui mouraient d'ailleurs, malheureusement, à la fin. Et là, vous trouvez un ami invisible qui, désormais 20 ans après la mort d'Alan, c'est aussi mon cas, qui vient d'un lointain passé.
Mais le jour où j'ai rencontré Alan, alors non, c'est pas le jour où j'ai rencontré, c'est quelques jours après, le jour où il m'a vraiment invité chez lui à présenter sa femme, on a bu un coup, je suis sorti de cette maison, il était minuit passé, et j'avais sous le bras une monographie consacrée à un sculpteur dont j'ignorais tout, qui s'appelait Henri Godier-Breschka, j'aime bien découvrir des gens que je connais pas, donc grâce à Alan ce soir-là, j'ai pu savoir qui était ce monsieur. Et de nombreuses années après, j'ai passé un été à Londres, c'était en 97, et à la Tate Gallery, je suis tombé sur des sculptures de Godier-Breschka, j'en ai représenté deux sur cette page. Il est évident que quand un ami, c'est beaucoup comme ça que la culture générale circule, quand un ami vous a parlé de quelqu'un qui, pour toutes sortes de raisons, est cher à son cœur, en l'occurrence, Alan avait connu un dénommé Gerhard Munch, qui avait lui-même fréquenté Ezra Pound, qui lui-même avait été ami de... Donc j'aime bien qu'on puisse toucher la main de gens d'un lointain passé comme ça, en touchant celle d'un copain, parce que voilà, j'ai eu une voisine à Paris qui a connu Céleste Albarré, par exemple, qui était la gouvernante de Proust. Bon, ben, il est évident que lire Proust, c'est une chose, mais rencontrer quelqu'un qui a connu Céleste, tout d'un coup, ça fait entrer dans votre propre généalogie, si j'ose dire, dans votre sensibilité, un effet de proximité inédit. Et donc, ce Godier-Breschka, c'est pareil. Grâce au fait qu'Alan a attiré mon attention sur lui, cet homme qui est mort très jeune pendant la guerre de 14, est devenu une sorte de familier.
Une chaîne ininterrompue de poignées de main. On pourrait s'arrêter là, sauf à considérer que, d'une certaine manière, pour vous aussi, ça se termine un peu en musique. Vous avez beaucoup dessiné pour les musiciens, eux-mêmes, d'ailleurs, ont fait la musique de vos livres, la musique d'Alan. Je voudrais qu'on se termine sur lui, parce que vous en parlez dans En bonne compagnie, c'est un dessin magnifique. Il joue de la guitare, mais c'est un dessinateur. Et on a commencé par Mike, qui était l'architecte, votre ami, qui vous avait demandé de revenir à lui au moment de ses derniers instants pour dessiner en vis-à-vis. Et vous avez fait cela aussi avec ce jeune garçon autiste.
Oui, voilà. On a ici un jeune homme qui s'appelle Leland Lee et qui vit à Taïwan, à Taipei. Et en effet, j'ai fait ce voyage, encore une fois, avec femme et enfant pour aller le retrouver et peindre en sa compagnie, sachant qu'on ne peut pas, en tout cas de but en blanc, avoir des relations avec ce jeune homme comme on en a avec le premier venu. Il y a un certain nombre de barrières que l'autisme met entre nous et lui, mais il y a des façons de les contourner. La peinture en est une. Une autre était la musique. Les Landes a ce syndrome qui consiste, comme c'est le cas pour beaucoup d'autistes profonds, à ne jamais regarder quiconque dans les yeux. Donc, interagir avec lui, c'est interagir avec quelqu'un qui ne vous regarde pas, en apparence. Mais je me suis rendu compte que quand il m'arrivait de prendre la guitare devant lui, à ce moment-là, il était d'une attention d'aigle. Et il me fixait dans les yeux, il fixait mes mains pour regarder les accords que j'étais en train de pratiquer sur le manche. Et on a chanté un certain nombre de chansons, enfin, lui plus exactement m'a chanté des chansons folk que je ne connaissais pas, et d'inspiration chrétienne, parce qu'il est chrétien. Et comme je m'appelle Emmanuel, il s'est lancé dans une chanson où je pensais qu'il était question du Christ. Et puis j'ai compris au bout de quelques temps que pour la première fois, on se connaissait déjà depuis un certain temps, mais à travers ce couplet, il s'adressait à moi. Il me disait des choses plaisantes à entendre. Il me disait « Emmanuel, tu es beau, je suis beau, nous sommes beaux, nous nous aimons ». Et j'ai compris qu'il utilisait en fait le subterfuge de cette chanson pour pouvoir entrer plus directement en contact avec moi qu'il ne l'avait jamais fait, et que vraisemblablement il n'aurait pu le faire sans sa guitare. Donc peindre, ça a été aussi une expérience intéressante dans la mesure où les Landes, qui a une trentaine d'années maintenant et qui avait 25 ans à peu près au moment où ce dessin a été fait, est quelqu'un qui abat deux ou trois toiles quotidiennes, donc qui avait à 25 ans déjà le patrimoine pictural d'un homme de 50 ans qui aurait beaucoup peint. Et une des raisons pour lesquelles il en abat autant, c'est que d'abord il fait pratiquement que ça, et puis il peint avec une rapidité, une espèce de foudroyance extraordinaire. Et c'est la première fois que je partageais l'espace de deux toiles, en l'occurrence, avec quelqu'un, et que j'étais mis en demeure de l'accompagner. Et je dois dire que je me suis senti très empoté, parce qu'il avait une sorte de véhicule extraordinairement vif et rapide, qui était cette main que je voyais tracer des choses comme s'il en avait une sorte, comme si c'était une sorte de projection mentale immédiate, sans aucun obstacle. Et moi, j'ai dû me secouer, et c'est souvent ce à quoi le handicap, d'ailleurs, nous invite, nous secouer, d'abord pour identifier des traces de ce handicap en nous, puisque je pense qu'on est tous plus ou moins handicapés, et puis par ailleurs, pour essayer de comprendre les règles du jeu que la personne qui est en face de nous propose, parce qu'elles ne correspondent pas aux règles du jeu traditionnelles que nous avons l'habitude de jouer, et que, mine de rien, à travers un exercice comme celui du jeu de guitare ou celui de la peinture, on est tout d'un coup amené à dériver assez loin de ce qu'on est d'ordinaire. Et si on le fait sincèrement, si on le fait en toute bonne foi, si on le fait dans l'idée, non pas tellement d'essayer de rejoindre l'autre ou de se mettre à sa portée, mais tout simplement d'être soi-même en sa présence, comme il l'est, lui, au moment où il peint vis-à-vis de vous. À ce moment-là, on franchit des pas intéressants. Je fais cette expérience régulièrement en milieu hospitalier. J'ai dessiné, pratiqué le dessin ces derniers temps avec un jeune sourd-muet. C'est pareil, le dessin, en l'occurrence, est vraiment notre seule monnaie d'échange. Je me suis dit à son contact que je serais bien inspiré d'apprendre la langue des sourds, mais je ne la connais pas encore. On a un moyen de communiquer qui est la capacité qu'on a à s'exprimer l'un et l'autre par le dessin. C'est très intéressant d'avoir à contourner des obstacles pour faire des choses qui d'ordinaire nous paraissent faciles et banales et dont on sait bien au fond qu'elles ne le sont pas.
Décidément, et on peut en terminer par là en vous remerciant beaucoup, Emmanuel. Dessiner, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que faire des dessins. Merci.
Merci beaucoup, Patrick.
Merci.